Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.
Bonjour à tous, bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale par DJ Network. Dans cet épisode, place au beatmaker. Devenu incontestablement le style musical le plus écouté dans le monde, le rap attire de plus en plus de jeunes producteurs. Aujourd'hui, tout le monde ou presque est capable de produire une instrumentale avec un simple ordinateur. Pour la plupart, ils utilisent le logiciel Fruity Loops. Très intuitif, il a su s'imposer auprès des beatmakers, même si d'autres logiciels comme Ableton Live ou encore Logic sont couramment utilisés. Au cours de cet épisode, nous allons essayer d'identifier des clés qui peuvent permettre de se différencier, contacter les artistes et arriver à placer ses premiers morceaux. Nous verrons aussi quelques astuces de production et de mixage. Pour commencer l'émission, nous accueillons Sani San, beatmaker français, qui va nous parler de son métier au quotidien. Quant à moi, je suis Benjamin, formateur créateur MAO à DJ Network, et on est ensemble dans Let's Prod. C'est parti!
Let's Prod.
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir dans Let's Prod Sani San, beatmaker et producteur du studio CV Records à Nice, dans le sud de la France. Parmi ses récompenses, on compte des certifications platine pour PLK, Eva Queen, et des certifications or avec le dernier single 10K de Maes et Ballman. Parmi les derniers artistes avec qui il a collaboré, nous pouvons citer le dernier single de Booba, Dolce Vita. Bonjour Sani San, comment vas-tu ?
Ça va très bien et toi ?
Impeccable, merci de nous accorder cette interview. Tu veux ouvrir le bal pour cette première émission. On a envie de connaître un peu les aspects techniques de ton travail, comment tu fonctionnes, quels sont tes projets actuels ou futurs. Pour commencer, j'aimerais savoir sur quel logiciel tu produis.
Logic V, depuis le Logic 5.5. Là, je suis sur Logic X.
Et au niveau du matériel, moniteur, interface audio, qu'est-ce que tu utilises ?
J'ai HS80, Yamaha, ouais. UAD, Hello 8, ouais. Et Logic X, un iMac.
Pas de hardware donc ?
Non, pas pour le moment.
100% in the box.
Ouais, exactement.
Et au niveau des plugins VST que tu peux utiliser en production ?
Alors moi j'utilise Battery 4 à fond. Après sinon j'aime bien aussi faire glisser directement les samples. Ensuite, Contact, donc de Contact pour les guitares. Et Omnisphere aussi, pour tout ce qui est Bell, Omnisphere, Keyscape.
Keyscape de Spectrasonic. Et au niveau de synthé purement digitaux, type Silent, Serum, tu utilises ça ?
Serum, ouais, je l'utilise. Quand je tombe sur un son qui est bien, ce qui est plus difficile par rapport à la musique que je fais. Silent, ouais, mais c'est une banque qu'on m'a donnée.
Donc toi, tu synthétises pas, tu utilises que des presets.
Ouais, après je les...
Tu les tweaks un peu.
Ouais, voilà, exactement. Un peu de layering, selon quoi.
Concernant ta façon de travailler, c'est vrai que chaque beatmaker a sa patte. Les instrumentales que tu fais sont quand même très mélodiques. Donc toi, de quoi tu pars ? Est-ce que tu pars plutôt des drums, des accords, de la mélodie ?
Instrument quasiment tout le temps maintenant. Avant... Pour savoir où est-ce que je m'orientais, je commençais par la rythmique, mais quand vraiment je fais des prods, s'il n'y a pas de... C'est pas pour quelqu'un que j'ai envie de faire une prod, tout simplement, je vais faire une mélo. Il y a un plug qui sonne un petit peu, ce qui est juste sympa. Je vais faire la mélo, après quitte à changer le plug, mais voilà, je vais partir sur la mélo.
C'est vrai qu'il y a eu un switch ces dernières années, avec des instrumentales de plus en plus mélodiques. Contrairement par exemple aux années 90, où on était vraiment dans un côté rythmique. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une recherche de boucles avec des rythmiques posées dessus très très simples.
Ouais, bah maintenant, je pense que si on regarde les projets, même mes projets logiques, même après, j'ai toujours fait du simple, je crois, moi. Mais les projets logiques, si on compte le nombre de pistes qu'il y a pour les derniers sons qu'on a fait, et il y a, allez, je pense même 4 ans, je pense que c'est la moitié, au moins.
La moitié en moins ?
Oui, je pense au moins la moitié. Et maintenant qu'il y a surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont chantées en autotune, donc c'est de la mélo. Avant, dans le rap, il y avait un peu moins besoin de mélo parce qu'il y avait moins de chants autotune. Et moins besoin d'accords efficaces pour que voilà, la top line soit efficace. Parce qu'on n'avait pas besoin de vraiment de top line, c'était du rap.
Et au niveau des banques de sons, alors on a compris que tu utilisais Omnisphere, que tu créais toi-même tes accords et tes mélodies en MIDI. Mais est-ce qu'au niveau des banques de sons, tu vas chercher des choses comme par exemple Splice ou tu as des banques de sons perso?
Moi, j'ai du coup, Batterie 4, sons de Batterie 4, des sons qu'on m'a donnés de Batterie 4, des samples que j'ai récupérés à gauche à droite et maintenant, ou depuis un an et demi, Splice à fond. Clap, les loops de Shaker.
Et tu as senti que ça avait changé quelque chose au niveau de ta production?
Oui. Ça veut dire que mon kick, je ne vais même pas le doubler ou chercher à... Hop, ça. On a kick qui sonne. Merci. Je vais prendre l'air, ça sonne, merci. Je l'ai doublé pour avoir... Mais c'est tout. Il y a plus besoin de mix, on va dire, dans les anciens drum kits.
C'est très important ce que tu dis là, parce que très souvent, on a tendance à trop vouloir en faire sur ces sons, alors qu'ils sont déjà mixés et finalement prêts à l'utilisation. Donc le conseil qu'on pourrait dire, c'est faites-en le moins possible. Prenez le son brut, mais choisissez le bien. Et de par ton expérience, quel est finalement pour toi le facteur déterminant sur justement les instrus que tu as réussi à placer, qui ont plu? Qu'est-ce qui a fait qu'elles ont été choisies par les artistes? C'est quoi, la mélodie peut-être?
Bah, la mélo, comme tu dis déjà. Et je pense aussi que si la top line est efficace, parfois, l'instru n'a pas besoin d'être extraordinaire. Parfois, une instru toute simple, mais comme le mec il va ramener quelque chose dessus d'incroyable, d'un coup, le morceau est incroyable, alors que l'instru, si tu l'écoutes seul, tu vas dire « ouais, elle est cool », mais ça se ramenait avec la mélo, du coup, de la voix. C'est ça qui est le plus, alors qu'avant, c'était moins important, alors que maintenant, c'est ça le plus important.
Et toi, comment tu as réussi à placer tes premiers morceaux?
Ben, en fait, moi, avant, je faisais plus de prod pour les gens qui venaient au studio. Donc, je faisais de prod de temps en temps comme ça, mais j'en voyais même pas. J'étais pas dans l'optique. Et un jour, j'ai dit, oh, mais vas-y, il faut que j'envoie un peu des prods. Je suis allé sur Google, j'ai tapé des noms d'artistes différents, cherché des mails, cherché, fouillé Instagram, tout, Facebook. Hop, j'ai trouvé le mail de... Le premier placement, après, c'est un son peut-être qui n'est pas connu de tout le monde, mais qui a marché. C'est une artiste qui était chez Fababi. Donc, j'avais envoyé. Et du coup, c'était sorti pour une artiste qui s'appelle Mélina. Le titre, il s'appelle Écoute-moi. C'est un peu vieux maintenant. Et donc voilà, ça a été mail. Et après, pour Mobali, pareil, c'était une mail de Benach.
Que t'es allé chercher ou qu'on t'a donné?
Non, j'ai cherché, je l'ai trouvé, ouais.
Et tu as dit quoi, du coup?
Salut, j'ai des prods afro. Est-ce que t'as un mail pour que je t'en envoie? Il m'a envoyé son mail. Il m'a envoyé 3 prods ou 4 prods et dedans est Mobali.
On sous-estime parfois le pouvoir d'Internet où on a l'impression qu'il faut connaître ou être près de l'artiste ou dans un réseau particulier. Alors c'est vrai, c'est peut-être le cas sur de gros artistes comme Aya Nakamura ou encore Damso. Donc il faut peut-être y aller marche par marche. Mais finalement, l'entrée est beaucoup plus accessible que ce qu'on croit.
Ouais, ben en fait, si tu as le mail qu'il faut, tu peux placer. Et si en plus, tu envoies des artistes qui écoutent.
Il faut quand même une grosse instru.
Oui. Mais par contre, ça va être quasiment impossible de trouver leur mail ou quoi, ou même leur mail, ils ne le calculent même pas. Il y en a d'autres, par contre, ils écoutent tout. Donc, tu peux être n'importe qui, ils tombent sur ta prod, ils aiment bien, ils te répondent, j'aime bien.
Et toi, avant d'envoyer et avoir tes premières signatures, il a fallu combien de temps, finalement, entre le moment où tu as commencé à produire et le moment où tu as commencé à signer?
Ça fait depuis très longtemps que je fais des instrus, mais que, comme je te dis, vraiment placer, envoyer... Je sais pas, je crois que le premier truc, ça a été Fababi que j'ai envoyé vraiment pour placer. Et le retour, il a dû être peut-être 3 mois après, un truc comme ça. Et j'ai 35 ans.
Hein. Et t'as commencé à 18 ans la prod?
Ouais, j'ai ouvert le studio, j'avais 22 ans.
Et tu penses que l'âge joue dans la qualité des instrumentales?
Si t'as le mail, tu peux avoir 17 ans. Si ta prod est tue, elle tue. S'en fout de quitter, quel âge t'as.
Et au niveau des revenus, comment ça se répartit finalement? Est-ce que c'est des revenus liés à tes droits d'auteur? Est-ce que c'est des revenus liés peut-être au studio? Comment ça se répartit tes revenus aujourd'hui?
Là, moi, j'ai les revenus du studio. Et après, ouais, la SACEM, en sachant, c'est important de le savoir. Par exemple, un titre comme Mobali, j'ai touché des sous 2 ans après sa sortie. Voilà, que les gens sachent aussi, quand tu places, c'est long. Et c'est pas autant d'argent que ça.
Et toi, au niveau du mixage, comment tu as appris toutes les techniques d'ingénierie du son? Est-ce que tu es allé dans une école ou est-ce que tu as appris tout seul?
Je suis allé dans des studios Et donc, j'ai appris en regardant les autres. Après, donc, j'ai essayé, on va dire, plus ou moins chez moi. Big up à Kenroll. C'est lui qui m'a montré la base du mix, c'est-à-dire assis-toi, alors, pourquoi ci, pourquoi ça, hop. Et c'est comme ça que j'ai appris, on va dire, un peu plus la théorie. J'ai fait en pratique et après, à force de règle tous les jours, et tu trouves, tu découvres des trucs.
C'est vrai qu'avec DJ Network, on met en place des formations experts, justement beaucoup axées sur le mixage, parce qu'on se rend compte que parfois, ça peut être le facteur déterminant sur la validation ou non par un label de la prod. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Moi, j'ai déjà envoyé en écoute des prods pas mixés, mais les niveaux, il faut qu'ils soient corrects.
Exactement.
Et si tu as pris les bons éléments, il n'y a pas besoin non plus de trop vouloir mixer, parce que le problème des gens aussi qui ne savent pas forcément mixer, ils vont peut-être le faire mal, alors qu'à la base, le truc, ça va, c'était assez écoutable. Du coup, ils vont peut-être trop trifouiller ou ça a plus sonné bien. Ou si tu ne connais pas, parfois, il vaut mieux juste avoir les bons éléments, un petit peu juste de volume, ça sonne bien, ok. De vouloir booster à mort son instru, parfois, si c'est mal fait, du coup, ça sonne encore moins bien.
Et tu peux nous en dire plus sur le placement pour Booba récemment ?
Ben, y a un ami qui m'a gentiment donné son mail il y a, je pense, 2 ans. Et je lui ai envoyé, je pense, depuis 2 ans, peut-être 8 prods. C'est pour dire aussi aux artistes, c'est pas parce que vous avez le mail de quelqu'un qu'il faut la harceler, à part si vous la harcelez que de trucs lourds, il n'y a pas de souci. Mais si c'est juste parce que vous avez le mail, vous voulez le placer absolument, vous envoyez n'importe quoi, non. On avait fait un remix de Aïe avec DJ Anilson. C'est un son qui est juste piano-voix. On a rajouté rythmique afro, on l'a fait en version club. Ouais. Je l'avais envoyé, il avait kiffé, et il avait fait dans un showcase, il avait chanté sur cette version. Donc c'était, on va dire, la première approche. Et après ça, j'ai dû lui envoyer 2-3 prods encore. Et après celle-là, je lui ai envoyé la prod, je crois 3 jours après, il a écouté. Il m'a dit « c'est lourd ». 3 jours après, il m'a dit « je l'ai massacré ». Et il m'a dit envoie les pistes, s'il te plaît ». Je crois encore 4 jours après, il m'a dit « ouais, il y a la manager qui va te contacter pour les contrats ». 2 semaines après, le titre sortait, je crois. Tout s'est fait, je crois, en 1 mois.
Et au niveau de la prod, tu as utilisé quoi ?
Guitar Contact, on taira le nom. Omnisphere, dans la basse, ouais, la basse, c'est une basse d'Omnisphere.
Est-ce que tu as des projets en préparation que tu pourrais nous confier ? Ou bien c'est top secret ?
Il y en a que c'est top secret. Donc. Et sinon, après, qui va arriver, il va y avoir l'album de Eva. J'ai un son dessus, avec Noxious.
Ok, et est-ce que tu peux nous dévoiler une petite astuce de prod que tu utilises régulièrement ?
Halftime. Sinon, sur toutes mes prods, il y a du halftime. Hein. Dans Dolce, si t'écoutes, tu vas capter, tu vas dire « ah ouais, ok, c'est la guitare en halftime, en fait ».
Est-ce que tu vois une différence entre le choix des sons utilisés, par exemple, par les beatmakers français par rapport à ceux utilisés par les Américains ?
Les drum kits qui vont être utilisés en France, la plupart du temps, ils vont venir des drum kits de Quinry. Donc, tu vois, les nouveaux drum kits, soit ils sont sur Splice, donc tout le monde les a, ok, mais sinon, les drum kits un peu spéciaux, machin, trap, les dernières snares ou machin, ça va d'abord être aux States avant d'arriver en download chez nous, tu vois.
Et au niveau du choix des drums ?
Le choix pour les drums, c'est possible. Mais après, par contre, les Français peuvent faire du quinry. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de... Ils peuvent tuer du quinry, vraiment. Et je ne suis pas sûr que des quinry arriveraient à faire du français.
Et c'est quoi pour toi faire du français ?
Ça va être plus déjà pour tout ce qui est afro. L'afro quinry, c'est un peu spé. L'afro qu'on a en France, on ne le retrouve pas aux States. Par exemple, ils n'arriveraient pas à faire, alors que nous, beaucoup de beatmakers français peuvent faire et tuer les carrés. Même des petites 18 ans, ils peuvent tuer.
Merci à Sanisan pour cette interview qui, je l'espère, vous aura éclairé et renseigné un petit peu plus sur le beatmaking. Les beatmakers se renouvellent. Force est de constater que progressivement, le sampling disparaît au profit de mélodies et harmonies entièrement créées. Pour apporter de nouvelles couleurs au son, de nombreux logiciels d'effets externes, appelés plugins, sont désormais disponibles. Ainsi, des plugins comme le Grosbeat du logiciel FL Studio a défini à lui seul une tendance, en particulier avec la fonction Halftime. En réduisant la vitesse des boucles par 2, Halftime a fait apparaître de nouvelles textures. Des artistes comme Metro Boomin et toute la vague de beatmakers d'Atlanta ont su, notamment grâce à cet effet, imposer la trap musique au monde entier. On s'aperçoit donc que l'utilisation d'un plugin peut être à l'origine d'une nouvelle façon de produire de la musique. D'autres effets ont su répliquer le Halftime, comme par exemple Shaperbox 2 de Cable Guys ou encore le M Rhythmizer de chez Melda Productions. Plus récemment, XLN Audio a sorti un plugin, le RC20 Retrocolor, qui va probablement définir le son des prochaines années. Comme son nom l'indique, Retrocolor permet d'ajouter volontairement une couleur rétro au son. On y retrouve des saturations de type vinyle, des saturations à lampe, et tout un tas d'effets plutôt intéressants. Retrocolor est ainsi devenu l'un des outils préférés des beatmakers, mais de beaucoup de producteurs d'autres styles également. Et si finalement les créateurs de plugins n'étaient pas les créateurs de tendances de demain ? Basse, basse, toujours plus de basse. Comme vous l'avez certainement déjà souvent lu et entendu, la marque d'instruments Roland a révolutionné l'histoire de la musique en créant une machine extraordinaire, la TR-808. Cette machine, une boîte à rythme, a défini le son rap et hip-hop des 20 dernières années, en particulier avec un son de grosse caisse ou kick qui joue désormais le rôle de basse dans la plupart des instrumentales. Une 808 correspond ainsi aujourd'hui à une basse et plus à un kick. Le beatmaker Mike Will est en partie à l'origine du son des 808 actuels. En effet, il a compris l'importance de saturer ses sons afin de les enrichir en harmonique et permettre de les entendre sur de petits systèmes de diffusion quotidiens, comme des enceintes de téléphone ou encore des enceintes Bluetooth. Pour cela, la technique de Mike Will consiste à dupliquer le son de 808 et de le saturer avec des pédales de guitare, en appliquant un filtre après cette saturation pour ne conserver que les fréquences médiums du son. Le son de 808 ainsi saturé est alors mélangé au son initial. Il s'agit d'un traitement dit « parallèle ». Vous pouvez essayer cette technique avec n'importe quel plugin d'ampli de guitare. Malgré cette méthode, beaucoup de beatmakers ont du mal à choisir les bons sons de 808. Des sites internet comme Splice ou encore Reddit mettent à disposition certainement les meilleurs 808 du marché. On peut aussi citer la marque Bigwerks et son pack de samples Unorthodox 808. Cependant, il est souvent nécessaire de complémenter le son de basse 808 avec un kick pour obtenir un bon punch. Ainsi, les meilleurs beatmakers gardent précieusement les kicks et 808 qui fonctionnent ensemble. Pendant longtemps, la Spins 808 et le Torture Rack Kick étaient le combo efficace de la trap américaine. Dans la musique trap d'aujourd'hui, on remarque que le kick a tendance à disparaître pour ne laisser plus qu'une 808 très saturée. Quelle sera la 808 de demain ? La réponse est probablement dans la découverte de nouvelles techniques de saturation.
Let's prod.
Spectrasonic Omnisphere. Phénomène hype ou outil indispensable ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre tout de suite. Pourquoi ce synthétiseur s'est-il imposé comme l'outil numéro 1 chez les beatmakers ? Probablement par la quantité considérable de sons qu'il contient. Du pad planant aux basses les plus agressives, Omnisphere a su proposer des sons pour tous les styles de musique et donc tous les producteurs. Le plugin intègre également la plupart des formes d'ondes de synthétiseurs emblématiques, comme les Korg MS-20, Juno ou encore Oberheim. Ce n'est donc pas un, mais plusieurs synthétiseurs que l'utilisateur retrouve dans cette machine virtuelle. Omnisphere intègre aussi de nombreux échantillons sonores d'ambiance déjà enregistrés, comme par exemple des sons de percussion ou d'instruments réels qui peuvent être mélangés avec les sons synthétiques. Vous l'aurez compris, les possibilités de création deviennent alors infinies. On peut tout de même se demander si cet outil est indispensable. Pour de jeunes producteurs, Omnisphere permet d'arriver rapidement à de bons résultats. Néanmoins, le prix du plugin pourra les dissuader. Les producteurs plus avancés y trouveront aussi leur compte, même si la quantité d'outils sur le marché est aujourd'hui considérable, avec de sérieux concurrents comme par exemple Output Arcade. Est-ce que Omnisphere saura conserver cette hype autour de lui ? L'avenir nous le dira.
Let's prod.
De nos jours, le beatmaking ne se limite plus simplement au rap, mais élargit son horizon vers d'autres styles. Le beatmaker devient alors un artiste à part entière et occupe même de plus en plus souvent le devant de la scène. On peut citer par exemple Murda Beats, qui fait des tournées aux États-Unis, ou plus récemment le beatmaker français Le Motif, qui sortira prochainement un EP. Comment évoluera le beatmaking ? L'avenir nous le dira. Ce podcast vous a plu ? Abonnez-vous pour être informé de la sortie de notre prochain épisode. Bonne production à toutes et tous. À bientôt.